Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI. Très heureuse de vous retrouver tous. Et non, je n'étais pas en quarantaine, en tout cas pas une quarantaine obligatoire, mais juste une quarantaine choisie. Il n'y avait pas de coronavirus dans l'air de mes vacances. Nous parlerons aujourd'hui de ces deux clubs français en quart de finale de la Ligue des Champions. L'Olympique Lyonnais a rejoint le PSG en éliminant la Juventus de Turin. Une vieille dame hésitante face à la détermination des hommes de Rudy Garcia. CR7, malgré son doublé, n'a pu éviter une élimination précoce du club italien. Et l'entraîneur de la vieille dame a déjà été remplacé. La Juve est sortie, le Real Madrid aussi. Pas de miracle à Manchester pour les hommes de Zinedine Zidane, plutôt résignés face à des Citizens emmenés par Kevin De Bruyne qui les auront dominés au retour comme à l'aller. Mais un Real sans Sergio Ramos n'est pas le Real. En tout cas, c'est ce qui nous semble. Le tableau des quatre soirées de Ligue des Champions est au complet. Le Barça et le Bayern au rendez-vous, les deux seules équipes des huitièmes qui arrivent à se qualifier en quart et qui ont déjà décroché le Graal. Il y aura donc sans doute des débutants dans la suite de cette compétition. Et invité aujourd'hui, pas du tout des débutants autour de cette table. Bonjour Hervé Penaud.
Bonjour et quel plaisir, quel beau retour, magnifique. Je parle d'histoire pour débutant, on a l'impression que je suis âgé. Pas du tout, je suis un débutant.
Un débutant bronzé et avec un beau Maradona sur voilà. Le maillot. À vos côtés, il y a Franck Simon, pas du tout débutant, nos auditeurs le savent. Bonjour alors, Franck.
Bonjour Annie, très heureux de vous retrouver, bonjour à tous.
Heureuse aussi d'être là et aussi avec David Lortolari qui complète ce trio du jour. Bonjour David.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Merci d'être là, Radio Foot, c'est parti.
C'est arrêté par Sarah Boadi qui va offrir à l'Olympique Lyonnais sa 9e Coupe de France face au Paris Saint-Germain.
C'est positif, on a cru en l'équipe, on a cru aux joueuses qui tiraient et ça a marché. Et félicitations à Sarah aussi qui nous sort pas mal d'arrêts.
C'est pas facile, après c'est vrai que le contrat est éliminatif, je les ai beaucoup regardés donc ça m'a aidé ce soir.
Vainqueur de cette édition 2020, mesdames, messieurs, merci d'applaudir l'Olympique Lyonnais.
Un petit clin d'œil aux filles qui jouaient hier soir, l'Olympique Lyonnais, qui a gagné la Coupe de France, la 9e de son histoire. Et oui, l'équipe féminine de Lyon domine le football hexagonal et européen depuis plusieurs années. Et le nouveau post-monde, post-coronavirus, n'y a rien changé. C'était encore face au PSG, l'autre bonne équipe française féminine. Alors après le trophée des champions, après le championnat de France, les Lyonnaises ont gagné un nouveau trophée. Il a quand même fallu en arriver au tir au but pour les Lyonnaises. Mais est-ce une victoire logique selon vous, Franck Simon ?
Pour moi, à partir du moment où ça s'est joué au tir au but, c'est que ça a été équilibré, comme lors de toutes les dernières rencontres entre les championnes, les cannibales, moi je les appelle les cannibales, les Lyonnaises, entre les cannibales lyonnaises et les parisiennes. Voilà, c'est de la loterie. Hein. Même si c'est une loterie qui a été plutôt bien préparée, je pense, de ce point de vue par ces joueuses, et notamment, peut-être qu'on va en parler, hein, par Sarah Boadi, qui vraiment, je pense, pour moi, l'une des toutes meilleures gardiennes du monde. Elle l'a encore prouvé.
C'est la gardienne de l'équipe de France, hein, d'ailleurs, en plus.
Là, elle s'est mise entre parenthèses, oui, de l'équipe
depuis,
nationale.
Oui, oui, oui.
Avant cette finale, elle avait joué tout dernièrement, enfin avant la crise sanitaire. Mais aujourd'hui, elle peut se consacrer totalement à l'OL, d'autant qu'elle a prolongé d'un an.
Exactement, ça, hein, on l'a donnée partante et finalement, elle est restée. David Lortolari, un match équilibré certes, mais quand même, on a vu les Lyonnaises, alors pas avoir beaucoup de chance pour ce qui était de marquer, mais on a vu notamment la défense et évidemment Wendy Renard.
Oui, complètement. Alors moi, je vois une hiérarchie qui certes s'aplatit. Avec
oui, bah chaque année, il y a du travail des adversaires, on va dire, pour essayer de déloger ces Lyonnaises.
Exactement. Et il y a même sur la scène européenne, ça fonctionne aussi un peu comme ça, avec peut-être deux clubs qui sont les gros du moment, Lyon et puis aussi Wolfsburg, qui a beaucoup d'ambition, qui vient d'Allemagne. Et en dessous, il y a ceux qui veulent prendre la place avec des moyens. Le Paris Saint-Germain, le Bayern aussi est en train de suivre exactement la même logique. L'un avec beaucoup d'argent, l'autre avec un peu moins, mais avec le savoir-faire, la structure. Et l'écart se réduit. Franck a raison de dire que ça fait maintenant plusieurs saisons. Mais il y a peut-être encore un petit quelque chose, peut-être un peu plus d'expérience, peut-être, parce que si on additionne les individualités des deux côtés, c'est à peu près équivalent maintenant.
Pour moi, ça vieillit hein, en plus hein, du côté de l'OL. Hein.
Pour moi,
c'est en train de vieillir en plus l'effectif.
Il y a peut-être encore une petite marge. Par exemple, hier soir, Ada Egerberg n'était pas là, qui est le Ballon d'Or féminin côté Lyon.
Le premier, parce que depuis
premier, il y a deux ans.
Oui, c'est pas celui de cette saison. Voilà. Exact.
Et puis il n'y en aura pas cette année.
Pour dire qu'il y a peut-être encore, peut-être une petite marge, mais comme ça se joue au tir au but, c'est vraiment minime.
Alors cette séance de tir au but, il y a quand même eu quelque chose un peu de bizarre au cours de cette séance. Écoutons d'ailleurs ce qui s'est passé.
Eugénie Le Sommer, l'une des joueuses cadres, une des âmes de cette formation du OTC, 31 ans. Et c'est arrêté par Christiane Hendler, l'horizontale parfaite de la Chilienne. Et allez, c'est la gardienne en personne, Christiane Hendler, qui va se charger de ce tir au but face à son homologue, Sarah Bouali. Ah, la barre transversale pour la Chilienne.
Ce face-à-face, on a d'abord, alors évidemment les gardiennes en plus, hein, pendant les séances de tir au but, elles sont assez proches sur le terrain, elles restent dans le même coin, et tout d'un coup, il y en a une qui se retrouve face à l'autre alors qu'elle vient d'arrêter un tir au but. Est-ce que c'était couru que Christiane Hendler allait rater le sien ?
Certainement pas. C'est pas une scène unique, parce que c'est vrai que Franck me contredira pas sur ce point.
Il y a un énorme élément psychologique quand même dans ces séances-là.
Mais les gardiens-gardiennes prennent leur responsabilité. Je veux dire, c'est peut-être le joueur par excellence qui va prendre ses responsabilités lorsqu'il faut aussi tirer un penalty, c'est paradoxal, ou un tir au but, sans des responsabilités. Mais en face, il y a aussi le miroir, c'est-à-dire quelqu'un qui peut avoir aussi du charisme, de l'aura. Et certes, le gardien est souvent assez adroit au pied, pour ceux qui en tout cas ont pris la responsabilité depuis qu'on suit le foot les uns les autres pour marquer des tirs au but ou des penalties, ça suffit. Mais en face, il y a aussi un mur, et du coup, il y a cette part d'incertitude. J'ai pas souvenir d'un gardien qui envoie un ballon sur une transversale. J'ai pas souvenir de ça. Mais
vous qui avez écrit un livre justement sur les gardiens de but.
Oui, on cherche toujours les particularités, mais voilà, faut s'attendre à tout lorsqu'il y a une séance de tir au but, et d'autant plus lorsqu'il y a deux gardiens face à face. C'est vrai, Annie.
Franck, vous qui officiez plutôt dans les buts que dans les livres sur les gardiens.
Pas plus tard qu'hier matin, si vous voulez savoir.
En plus. Ouais.
Et bah écoutez, c'est clair que c'est compliqué d'être face à quelqu'un comme Sarah Bouadi. C'est une spécialiste, elle sait transformer les pénaltys ou les tirs au but, elle sait aussi les arrêter. Elle a beaucoup de charisme, beaucoup d'expérience. Je n'ai jamais vu la Chilienne Hendler, qui est une des meilleures gardiennes du monde, hein, faut le rappeler. Hein. Elle avait fait une super coupe du monde avec son pays. Mmh. Elle avait été élue meilleure gardienne de la Liga Iberdrola espagnole avant de signer au Paris Saint-Germain. C'est pas une joueuse qu'on découvre. C'est une grande gardienne. Et on l'a encore vu avec sa sobriété et tout ce qu'elle peut incarner de positif à ce poste. Mais face à elle, il y avait Sarah Bouadi. Sarah Bouadi, elle n'a pas besoin de beaucoup de tentatives pour au moins en stopper une. Elle a stoppé celle qui était importante pour son équipe. À côté de ça, vous avez vu qu'Hendler avait fait une parade exceptionnelle. Mm-hmm. En face, c'était Eugénie Le Sommer, c'est-à-dire en fait l'une des toutes meilleures attaquantes du monde.
Oui,
c'est un exercice très particulier, qu'on soit homme ou femme, quand on se présente comme ça n'a rien à voir avec le jeu lui-même. C'est quelque chose qu'il faut travailler, préparer. Et je trouve qu'à l'évidence, ça a été mieux préparé côté OL.
Hendler en a arrêté un, Bouadi en a arrêté un autre, et au milieu, et ben Hendler avait raté le sien. En tout cas, ces deux équipes françaises, et bien sont encore en lice de la Ligue des Championnes. Alors phase comme pour les hommes, hein, qui va se dérouler dans des conditions très particulières cette année.
Sur un match sec.
Exactement, ça sera la phase finale, un tournoi Final 8 comme on dit là, le Final 8 en Espagne, au Pays Basque. Ça sera du 21 au 29 août, et peut-être qu'elles vont se retrouver d'ailleurs ces deux équipes, parce qu'il y en a une qui jouera le Bayern en quart de finale, le PSG Arsenal, mais ces deux équipes qui sont fortes, eh bien, pourraient se retrouver en demi-finale.
Là, j'évoquais tout de suite la Liga Iberdrola espagnole, incarnée par Hendler quand elle y jouait. Aujourd'hui, on a quand même deux clubs espagnols, l'Atlético Madrid et le Barça. Vous savez que le Real Madrid, il n'y a pas si longtemps, s'est lancé, ça y est, c'est officiel.
Exactement.
Il y a une équipe. Il faudra vraiment surveiller, parce que le Barça, c'est le finaliste l'an dernier. Alors, elles avaient pris une fessée, une rouste contre l'OL, mais je trouve que là, elles arrivent avec beaucoup d'ambition. J'ai eu Kaira Amraoui, l'ancienne joueuse du PSG et de l'OL. Elle m'a dit, nous, on est là pour aller à minima en finale avec le Barça. On veut prendre cette compétition.
Ça laisse pas beaucoup d'options. À minima en finale, ça veut dire la gagner. Quoi.
Voilà. Elles en ont déjà gagné 4, Hervé. C'est pour ça que...
6, l'OL.
Pardon.
Mais 4 d'affilée.
Voilà, les 4 dernières. Voilà. Exactement. Hervé, dans l'armoire, disons, des récompenses de l'OL, est-ce que ça... quel est le poids de ce football féminin? Parce qu'on sait que Jean-Michel Aulas est un des présidents qui a donc misé sur ce football en France. On va parler tout de suite de l'OL et de sa victoire contre la Juventus, enfin de sa qualification contre la Juventus. Mais quelle est l'importance? Est-ce que c'est d'image?
Ah, pas du tout. Non, ça, depuis le début, il a toujours cru au football féminin, Jean-Michel Aulas. Et puis, il y a un exemple très simple, c'est aller au musée du stade, qui est un truc absolument invraisemblable, magnifique, qui a été vraiment super bien pensé, mais c'est, en gros, moitié-moitié. C'est-à-dire qu'on met autant en valeur les filles que les garçons. Ce qui peut paraître étonnant, parce que c'est vrai que l'histoire de l'OL masculin est beaucoup plus important, évidemment, que la section féminine.
30 titres féminins.
Mais il n'empêche, ouais, mais enfin, ça n'a pas le même poids, quand même, le poids des titres masculins. Aujourd'hui, la concurrence est plus importante, même si elle n'est pas énorme,
mais elle
est plus importante. Mais elles ont une place immense. C'est-à-dire que pour eux, c'était l'idée de penser ce musée, c'était aussi de mettre exactement au même niveau les femmes et les hommes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a beaucoup investi sur le football féminin et qu'il se déplace sur chacun des matchs, etc., etc. C'est pas simplement une histoire d'image au départ, on se dit à mon avis, et pourtant lui c'est quand même un dirigeant.
Il est très attaché à son équipe.
Bien sûr,
très
et c'est un dirigeant de l'ancienne génération, on pourrait toujours penser, oh, lui quand même, le football féminin, pas du tout. Mais il faut dire, c'est quand même un visionnaire, donc il avait compris que le football féminin aussi prendrait sa place dans les années à venir.
Et pour corroborer ce que nous disait Hervé, le président Aulas, à chaque fois que sa délégation est venue pour la cérémonie du Ballon d'Or de France Football, il était là, il était chef de la délégation, il accompagnait ses filles, c'est super important.
Ouais. Et il reste un précurseur de toute façon.
Ah oui, avec feu Louis Nicolin, ce sont les deux hommes, les deux clubs,
à Montpellier.
Voilà pour Montpellier qui ont mis en place, qui ont lancé et fait en sorte que le football français féminin aujourd'hui soit l'un des tout meilleurs en Europe et dans le monde.
Eh bien justement, l'OL, l'Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas. C'était un excellent week-end pour ce club du sillon rhodanien, on va dire, sur les bords du Rhône.
Les lions s'attaquent parfois à des proies qui font plus de deux fois leur poids.
Pénalty pour l'Olympique Lyonnais. Le coup de sifflet d'arbitre, il prend son temps et c'est parfait. C'est parfait ce que réalise Memphis Depay pour l'ouverture du score. Ce ballon courait d'Adélaïde, l'arbitre va siffler, et Lyon est qualifié pour les quarts de finale.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta.
Et oui, c'est Rudy Garcia qui parle en italien.
Ma che,
vous aussi, Hervé, vous parlez italien.
Oui, sous la torture.
Pourtant, alors c'est Franck qui vous torture, parce que moi, je suis loin, je suis à plus d'un mètre. On l'a fait donc, dit Rudy Garcia, très romain dans sa déclaration. Et c'est un clair clin d'œil, évidemment, aux supporters de la Roma qu'il a entraîné pendant quelques saisons. Lyon a donc sorti la Juve, un exploit pour cette équipe qui, depuis 10 ans, attendait de rejouer un quart de finale de Ligue des Champions. Champion. Sur la pelouse du Stadium de Turin, donc, l'équipe des Lyonnais a confirmé son résultat encourageant. Alors, vous en souvenez, c'était il y a 163 jours, si je me trompe.
En février,
pas.
Oui.
Il y avait eu le match aller, ce fameux 1-0 qui avait donné tant d'espoir aux supporters lyonnais. Alors, les pauvres, ils ne pouvaient pas être là, mais l'OL, certes, a perdu le match retour et on va y venir sur ce match de score de 2-1, mais la Juventus aurait dû inscrire 3 buts pour se qualifier. Lyon a tenu et notamment grâce à sa défense et son gardien Anthony Lopez, plutôt content de la performance.
On savait qu'on avait les ressources nécessaires pour marquer un but ici et que derrière, il leur en fallait 3 pour se qualifier. Je pense qu'on a été très costauds, très solidaires pour pas encaisser ce 3e but. Et puis voilà, je pense que c'est un gros travail collectif parce que on n'a pas été récompensé sur vendredi dernier et aujourd'hui on est récompensé de tous nos efforts qu'on fait depuis la reprise.
Alors évidemment, quand il parle de vendredi dernier, c'était la semaine d'avant, la finale un peu triste de Coupe de la Ligue en France, qui avait finalement été perdue au tir au but par Lyon. Donc là aussi, c'était un peu un autre Lyon PSG. Décidément, il y en a beaucoup en ce moment. Vous étiez au stade Hervé quand il parle de costaud, solidaire, collectif. C'est vrai que c'était un exploit d'éliminer la Juve, mais en plus, on a vu ce qui caractérise quand même sans doute cette équipe de Lyon, c'est-à-dire cette force collective où l'équipe se transforme un peu et se transcende dans ses rendez-vous européens.
Mais qui ne se transcendait pas trop depuis quelques mois quand même. Et on attendait de voir
elle
une équipe...
Elle ne jouait pas
avec...
surtout.
Ah oui, les mois d'avant. On va dire les mois d'avant. Parce qu'ils finissent 7e championnat. C'est la première fois depuis 22 ans qu'ils ne seront pas en Coupe d'Europe.
Mais on se souvient des débuts avec un entraîneur brésilien qui n'est pas resté trop longtemps.
C'est vrai, mais même avec Rudy Garcia.
Il a un peu plombé l'année.
Ça a été un petit peu compliqué. Il a fallu qu'il trouve aussi les automatismes. C'est choisir des joueurs parce qu'il avait un effectif. Après, Après, il y a eu un mercato d'hiver qui a pas mal fonctionné avec l'arrivée de Bruno Guimarães, notamment le joueur brésilien, le milieu de terrain, dont on reparlera, à mon avis, dans les années à venir. Mais c'est vrai que pour Lyon, il y avait cette sensation que cette saison, elle pouvait se jouer, basculer sur deux matchs, qui étaient le Paris Saint-Germain. Malheureusement, ils l'ont perdu au tir au but, donc ça s'est joué à pas grand chose. Et puis il y avait cette possibilité encore de sortir la Juve. Jamais un club français n'a réussi cet exploit là ils l'ont fait, et ben au prix effectivement de sacrifices, de volonté. Ça n'a pas été offensivement le meilleur match de l'équipe de Lyon, mais il y avait un plan de jeu, ils s'y sont tenus, et c'est là où je pense franchement il se passe quelque chose dans cette équipe là alors je sais pas ce qu'ils feront contre Manchester
City. Mais il se passe souvent quand même voilà quelque chose avec eux en Coupe européenne, enfin en match européen, on se souvient de ce coup quand ils étaient allés gagner à Manchester City quand même.
Et gagner déjà cette année à Leipzig. Leipzig, à en l'époque plus. Où ils vont gagner à Leipzig, Leipzig était très très fort. Après, ils ont un petit peu baissé. Ouais. Mais au départ, c'était un Leipzig qui tournait à plein régime. Et ils sont allés s'imposer 2-0 alors qu'à l'époque, Lyon ne fonctionnait pas du tout. Ça avait été un match, attendez, c'est vrai qu'on voit le résultat, comme le résultat à City, c'est un peu trompe-l'œil.
Oui.
Hein, parce qu'il y avait eu beaucoup d'occasions pour Leipzig, il y avait des petites erreurs défensives qui avaient permis à Lyon de s'en sortir. Mais toujours est-il qu'ils ont réussi à être présents au rendez-vous attendu. Et là, de ce côté-là, pour l'instant, Rudy Garcia, pour lui, c'est quand même une belle période depuis qu'il est à l'OL, même si c'est cette 7e place, mais avec un championnat écourté.
Franck Simon, sur cette performance et sur ce match, c'est vrai que c'était, on avait un but d'avance et donc c'était compliqué pour Lyon, en même temps marqué et ça permettait d'acculer encore les Turinois.
Oui, ce qui est intéressant dans la semaine qui avait précédé, c'est qu'il y a eu cette fameuse finale de Coupe de la Ligue où on avait vu que défensivement cette équipe était bien,
très solide.
Très solide. On avait une équipe dont la condition physique était bonne, très satisfaisante, j'ai trouvé même. On avait vu un milieu de terrain très à l'aise. Avec notamment le petit Cacrec que moi j'ai pas vu beaucoup jouer. En fait, je ne le découvre que depuis quelques matchs en vérité. Les matchs de préparation et puis là. Et en fait, on avait déjà des petits indices. On avait des indices sur la motivation, l'envie, l'ambition, le projet collectif. Et ça s'est avéré exact quoi en fait. Hein.
Alors David, il y a eu ce match, mais effectivement, il y a eu aussi quand même une drôle de rencontre avec ces deux pénaltys. Il y a des moments, on se demande si la VAR joue son rôle parce
oui,
que
ça c'est sûr.
On se demandait déjà s'il y avait le premier pénalty en faveur de Lyon, mais alors après, quand on a vu le pénalty en faveur de la Juve, on s'est dit que bon, peut-être que c'était une petite compensation.
Oui, alors il faudrait sans doute une émission deux fois plus longue pour débattre de la relation entre l'arbitre central et puis celui qui est devant
n'est-ce
les écrans. Non, là, l'émission s'enchaîne très vite parce que j'ai fait une petite liste des quatre ingrédients qui pour moi sont importants pour réussir une soirée de Ligue des Champions et vous les avez tous mentionnés. L'appétit, Lyon avait montré précédemment et là encore sur ce match-là qu'il l'avait et sans doute qu'il y en a quelques autres dans la Ligue des Champions actuelle qui en ont aussi comme Manchester City qui ne l'a jamais gagné.
Qui compense peut-être parfois l'absence de palmarès ou d'expérience.
Voilà, la cohésion, l'équilibre, Anthony Lopez parlait d'un groupe compact, etc. C'est indispensable si vous voulez tenir face à un adversaire prétendument plus fort. La forme physique, apparemment Lyon est bien ressortie de la phase d'interruption. Et puis les moments où les joueurs décisifs, les pénaltys sont des moments décisifs. Et les joueurs décisifs, il y en avait éventuellement côté Juve, évidemment avec Cristiano par exemple. Mais il y avait aussi des joueurs côté Lyon, Memphis Depay qu'on connaît bien, qui peut être décisif et qui l'a été encore.
Et qui fait une Panenka.
Voilà. Quand je dis joueurs décisifs, ce sont des joueurs spéciaux. Donc là, on y est. Et puis peut-être aussi des jeunes que Lyon arrive si bien à sortir régulièrement aussi.
On va y venir à ces jeunes, mais c'est vrai que Memphis Depay, alors évidemment, Lyon, on le sait, au moment où il y aurait dû y avoir un match retour, n'aurait pas eu ni ce joueur ni Reine Adélaïde. Là, il y a Memphis Depay qui tient son rang quand même, Hervé.
Oui, disons qu'il est la reprise, il se comporte en leader, déjà, ça c'est important. C'est-à-dire qu'il demande beaucoup de balles, on voit qu'il fait beaucoup d'efforts. En revanche, il n'a pas tout à fait la qualité, la justesse technique qui permettrait de faire des différences, parce que parfois il voit les coups, mais les balles n'arrivent pas toujours très très bien. Bon, 7 mois d'absence, c'est pas facile non plus à compenser.
Mais à côté de ça, fallait oser.
Voilà, à côté de ça, vous connaissez, il aime briller. Donc il y a peu de spectateurs, mais il y avait quelques millions de personnes devant les écrans.
On a été bluffés.
Pour montrer la face de l'Europe entière, voire du monde.
Et il ne faut pas le louper, ce geste-là.
C'est ça le problème de la Panenka.
Si le gardien ne bouge pas, bon.
Le seul avantage, c'est qu'il l'a réussi. S'il l'avait raté, je pense que ça a beaucoup moins passé dans les rangs lyonnais.
C'est souvent ça, Franck.
Peut-être un mot sur Carl Tocco et Cambi, qui avaient titularisé que tu avais annoncé d'ailleurs la veille, tu avais annoncé que Karl Toko
il y avait match.
Ouais mais que tu disais bon voilà, il avait quand même plus de chance voilà plutôt que son concurrent. On avait quand même des joueurs africains qui ont été très très intéressants. Ils ont travaillé à défaut d'être brillants, on leur demandait d'être solides et je trouve qu'ils l'ont été.
Ouais. Exactement.
Et Cornet était quand même l'un des joueurs clés de cette OL. Ça paraît incroyable parce que tout le monde, les supporters à un moment le moquaient.
C'était
terrible.
Alors que c'est un joueur qui a un état d'esprit mais remarquable, c'est-à-dire qu'il était capable d'être remplaçant, de pas être content. Ouais. Hein. Il avait parlé à l'époque même à Genesio, il dit je comprends pas pourquoi moi je joue jamais, etc. Mais il n'empêche que dès que vous le mettez sur un terrain, il est là 100% de lui-même, il donne. S'il y avait que des joueurs comme ça, je pense que l'état d'esprit de Lyon, si vous voulez, lui d'une certaine manière c'est le symbole de tout ça.
On parlait de la défense. Effectivement, c'était le plus important puisque avec un but d'avance, il fallait aussi avoir cette envie de tenir. Dans la défense, quelqu'un qu'on a vu énormément quand même, c'est Marcelo. On se souvient, Hervé, de sa mise au banc pendant un moment par les supporters. Alors, on connaît les supporters lyonnais un peu soupolés. Voilà.
Un euphémisme.
Mais là, Marcelo, il a été impressionnant.
Ah ben, ça me fait assez plaisir parce que je pense, alors là pour le coup, lui aussi c'est quelqu'un qui avait beaucoup à donner, c'est pareil, état d'esprit remarquable, avec quelques défauts évidemment, quand on voit qu'il est lent par exemple, il a une certaine lenteur, si vous le laissez en un contre un face à un joueur qui va vite, il sera en difficulté évidemment, donc ce qu'il fallait c'est trouver aussi un système qui lui convienne bien. Alors là ils avaient décidé de ce système à 3 derrière, je sais pas lequel ils vont pouvoir rencontrer Manchester City, parce que autre adversaire, peut-être autre manière de voir le match, mais en tout cas sur les deux matchs qui ont été disputés contre Paris et contre la Juve, c'était quasiment le meilleur joueur. Globalement, le match, il enlève un but comme Memphis marque le sien, parce que le tacle sur Bernard Deschamps, c'est absolument incroyable, sinon il y a but assurément. Et c'est vraiment le symbole de l'OL, des hauts et des bas, c'est-à-dire qu'il a eu des mailles à partir avec les supporters, qui ne voulaient plus de lui, qui l'insultaient. Oui, rappelons-nous quand même que c'était la fameuse épisode, c'était aussi en Ligue des Champions. C'était après la victoire, le nul permettant la qualification en huitième de finale de Ligue des Champions contre Leipzig. À la fin du match, un supporter avec une photo de Marcelo en âne et puis se moquant de lui. Après,
femme qui avait réagi sur les réseaux sociaux.
Même fils de paille qui court l'abordage gueulant contre le supporter. Mine de rien, il se blesse 3-4 jours plus tard. Même fils de paille, on ne sait jamais.
On a l'impression que c'était une autre époque.
Une autre époque. Et lui qui arrive magnanime avec les supporters à Bordeaux qui va les voir et qui dit bon allez, on arrête tout ça. Quoi. Ouais. Et aujourd'hui, c'est certainement le pilier de cette équipe-là. Moins brillant techniquement évidemment qu'un Aouar, qu'un Cacré, etc., ou qu'un Memphis, mais aussi important, voire peut-être plus important.
Ouais. Alors il y a aussi on évoquait le milieu terrain, alors bien sûr Guimarães, mais qu'on a peut-être
vous avez entendu Guimarães, c'est comme ça,
je saurais pas dire comme vous Annie.
C'est un Brésilien, Marcelo c'est plus simple à dire en portugais, mais donc Guimarães qu'on a peut-être un petit peu moins vu, mais celui que nous on a tous vu, nous, c'est Maxime Cacré. 20 ans, il était titularisé en plus en milieu de terrain pour ce match, c'est absolument incroyable. Il a été l'un des meilleurs. Alors sur les réseaux sociaux, il a épaté tous les supporters, bien sûr. Qui note 7 ballons récupérés, ça a été le meilleur récupérateur de l'équipe, égalité je crois avec ce Marcelo justement. Et puis alors 45 ballons, 17 duels, c'est là qu'il y a, à égalité, les 17 duels gagnés avec Marcelo. 41% de ses duels gagnés, 3 interceptions, 6 ballons perdus, 86% de passes réussies. Cacré, c'est la révélation pour vous, Hervé. Bon, parce qu'on a l'habitude, l'OL a la chance de pouvoir, on va y venir sur la formation et nous sortir des joueurs qui nous impressionnent. Mais là, ce jeune.
On est obligé de dire que c'est une révélation, parce que personne ne peut s'imaginer quelqu'un qui joue son 4e, 5e, 6e match contre la Juve. Là, on ne parle pas de jouer contre Brest. Hein. J'ai beaucoup de respect pour les Brestois, et ton même breton. Mais c'est la Juventus. Et en face, il a fait un match phénoménal. Alors, il a une intensité, une personnalité, parce qu'il a peur de rien. Il nous a fait quand même des Verratti. C'est-à-dire, devant la défense, à un moment, en éliminant 2 joueurs. Sur le côté aussi, en ne s'affolant pas. Jamais, il ne s'affole absolument jamais. Et devant même le but adverse, à un moment, il élimine aussi 2 joueurs sur une infiltration. Il est techniquement très, très juste. Alors, ce qui lui manquait, et la crainte qu'avaient un peu les entraîneurs, les différents qui sont posés sur le banc lyonnais, c'est 3 dernières années, en gros, c'était Genesio, Silvinho et Garcia, c'est l'impact physique. Effectivement, il a assez freluqué. Mais cette année, il a gagné en puissance. En revanche, en athléticité, entre guillemets, c'est-à-dire cette capacité à multiplier les efforts, à même récupérer la balle dans les pieds de l'adversaire par un positionnement de corps qui est toujours très intelligent, franchement, il a été bluffant. Alors maintenant, on va falloir le suivre sur son évolution.
Oui, hein,
parce qu'attention, il faut se méfier toujours des feux de paille. Mais il a tout pour lui, en tout cas.
De
mais
paille.
Aouar, oui,
de
comme Aouar.
Franck.
Ouais, c'est ce que j'ai trouvé frappant, qu'il ait du coffre, comme on dit dans le métier. Un gars qui a couru pendant plus de 90 minutes.
Parce que ça jusqu'au dure. Bout. Hein,
parce jusqu'au bout. Donc, il a du coffre. Ouais. Ça veut
peut-être
dire que la préparation post-Covid a été super bien faite. Et surtout, il est totalement décomplexé. Et vous vous souvenez, je pense que tu te souviens de son match contre le Paris Saint-Germain. Il mettait des brins.
Ouais. Il est anguleux aussi. Pas seulement brillant ou de fin.
Ouais, il peut y aller aussi. Et c'est important d'avoir un joueur avec ces qualités-là aussi. Pas seulement dans la récupération, mais avoir un petit peu un côté, comme ça. Peut-être moins brillant, mais qui peut effrayer l'autre. Et contre le Paris Saint-Germain, je me demande s'il avait pas failli, il a peut-être été même remplacé plus tôt que prévu parce que je crois qu'il avait pris un carton, cet empressement à venir gratter les ballons dans les pieds, tout ça, ça.
Contre Paris, il fait un sprint défensif à la 117e.
Oui, il va chercher.
Non, il frappe même son tir au but. Il n'est pas remplacé contre Paris.
Oui,
il frappe son tir au but.
Ouais,
comme si de rien n'était.
Sous la barre.
Comme si de rien n'était.
C'est ça.
Non, c'est assez phénoménal.
Il a du coffre.
Et surtout, visiblement, c'est qu'il a une énorme confiance en lui parce qu'être capable de réussir de telles performances à un tel niveau.
David Lortolari.
Est-ce qu'il y a une jurisprudence Gonalon? Alors, il n'y a pas que Gonalon, mais je pense milieu défensif. Peut-être était-il plus grand, Maxime Gonalon, mais il a éclos rapidement. Il a pris ses responsabilités. Il a été capitaine vite de cette équipe. Et puis, il avait une envergure aussi. Je veux dire, sur le terrain, hein, pas forcément vis-à-vis des coéquipiers, mais pour endiguer aussi les vagues adverses. Et c'est un peu ce qu'il a fait là contre la Juve.
Puis il gueule, hein, on le voit, il appelle ses coéquipiers, replace-toi, viens là.
Ouais, on sent qu'il est...
Ouais, il a pas peur. Il assume
son rôle.
Oui, il assume
quand il est là.
Intéressant.
En tout cas, l'OL s'est très bien profité de son centre de formation. Alors, vous parliez de Maxime Gonalon, mais alors la liste est si longue. C'est le deuxième club européen en nombre de joueurs formés au club utilisés en Ligue des Champions, derrière le Barça. Troisième en temps de jeu à offrir à ces joueurs formés par le club, derrière l'Atlético et le Barça. Est-ce que c'est... Alors, on savait, on peut citer des générations qui sont devenues de grands joueurs. Alors, on commençait par Benzema, bien sûr. Il y a eu après un peu ce groupe, Lacazette, Tolisso, Umtiti, voire Martial, un peu plus jeune.
Mais... C'est l'époque contemporaine. On aurait même pu remonter aux années 90, hein. Avec l'OL, je sais pas ce que t'en penses, Hervé, mais à l'époque des Florian Maurice et tout ça, là, il y a eu des garçons qui ont été formés bien avant. Ils ont, alors après, c'était peut-être pas le même, c'est pas le même talent.
Mais c'était pas la même époque aussi.
Mais ils ont régulièrement, à un moment donné.
Gavin était un joueur très doué et puis après, il s'est blessé au pied.
Oui, bon, alors que
c'est malheureusement depuis longtemps.
Mais aujourd'hui, c'est surtout sur les dernières années, quoi.
Mais voilà, c'est Kier Aouar, là, le Ryan Cherki qu'on avait vu aussi l'année dernière rentrer dans cette équipe. Est-ce que c'est le plus de cette équipe lyonnaise? Surtout dans le contexte actuel, Hervé, c'est-à-dire avec ces problèmes de économiques des clubs, notamment français, avec l'arrêt du championnat, et puis en plus sur une scène européenne.
C'est assurément le plus, mais c'est nécessaire. C'est surtout ça, c'est qu'ils peuvent pas faire autrement.
Mais d'autres clubs,
eux, ils ont pas les moyens.
Ils ne misent pas de la même manière.
Bien sûr, eux, ils n'ont pas les moyens.
Non. Du PSG,
et puis d'autres clubs plus importants sur la scène européenne. Il faut jamais oublier que Lyon a construit son stade. Mm-hmm. Ils ont besoin de le rembourser. Ils sont tout autour du stade. Ils sont en train de construire aussi un mini-village OL où il y aura 500 000 trucs. Ils vont s'allier avec l'ASVEL, qui est un club de basketball très célèbre en France,
avec Tony Parker.
Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ça, il va falloir rentabiliser. Alors, comment faire? Eh ben, d'une certaine manière, c'est en achetant des jeunes joueurs bons, mais pas encore au top niveau et pouvoir les revendre.
Comme Guillermo Reis,
comme Tanguy Ndombele qui est parti à Tottenham, comme Ferland Mendy.
C'est un trading intelligent.
C'est faire du trading intelligent, mais avec le défaut du trading. C'est-à-dire que vous prenez des jeunes joueurs avec la possibilité aussi que ça fonctionne pas toujours. Et on l'a vu avec Andersen sur ses débuts de saison. On l'a vu avec, Koné un peu plus, il a à peu près 23-24 ans aussi. Koné, ça a pas trop fonctionné. Thiago Mendes est un peu plus âgé. Lui, ça fonctionne pas aussi complètement. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas se planter quand on fait ce type de politique, Mais on sait que par contre, si on arrive à sortir quelques pépites, eh ben c'est de l'argent qui va rentrer. Et puis, c'est un plus pour le club. Quoi.
Alors là, Juve, qu'arrive-t-il, David Ortolari, à cette vieille dame, pourtant si titrée, 9e Scudetto d'affilée, hein, pas dans son histoire, d'affilée. Cette année encore éliminée, ça fait 4 ans qu'elle n'avait pas été écartée dès les 8e de finale. Une équipe qui avait en plus mal fini son championnat, on s'en souvient. Oui. Elle perd ses deux derniers matchs dès qu'elle sait en gros qu'elle a assuré son Scudetto. Elle a viré son entraîneur, d'ailleurs, dans les heures qui ont suivi l'élimination. Est-ce que la vieille dame, finalement, était une proie facile pour Lyon ?
Presque. C'est vrai, si on regarde en surface, on se dit, bon, alors peut-être un cycle après l'apogée, peut-être que Cristiano Ronaldo, qu'on encense...
alors on lui reproche presque de ne pas avoir mis un triplé. Mais...
Ben, c'est presque mauvais signe ça, quand vous avez un joueur qui doit porter une équipe, parce que là, c'est pas seulement qu'il porte l'équipe, c'est qu'il a dû la porter.
Mais ils ont choisi en l'achetant, c'était ça qu'ils voulaient aussi.
C'est vrai. Peut-être qu'on va avoir le même raisonnement avec le Barça de Léo Messi un peu plus tard dans la suite du mois d'août, là, si Messi fait des exploits et emmène son Barça en finale, ou à l'inverse, si ça s'arrête maintenant. Pour moi, ce ne sont pas forcément des très bons signaux. Après, les deux messieurs qui sont très expérimentés face à moi n'ont pas forcément été surpris de la brutalité, de la radicalité du départ de Sarri. Je pense que avec l'exigence qu'on a maintenant dans un club comme ça, c'est vrai que, enfin, moi je suis choqué lorsque quelques heures après le résultat, l'entraîneur est débarqué. Mais ça fait partie aussi de la marque. Et remplacé en plus.
Ça sent un peu
avec un pari osé pour le coup.
On y reviendra à ce pari, mais c'est effectivement Andrea Pirlo, ancien joueur. Grand joueur de l'équipe.
Mais je crois que le principal, c'est ce que vous disiez en amont, Annie, c'est-à-dire que la Juve, la saison se goupillait pas très bien là. Après le titre, après l'assurance du titre, il y a des dynamiques en ce moment avec cette pause de 2-3 mois. Il y a des dynamiques très différentes et qui vont se voir encore plus sur des matchs où il n'y a plus de match aller-retour. Parce que là, il y avait eu un match aller, certes, qui était en défaveur, légèrement en défaveur de la Juve. Mais là, maintenant, sur un match comme ça, bon, ben voilà, l'expérience n'a pas suffi, en l'occurrence.
Franck, on avait l'impression que, justement, la Juve, bon, à la fin du championnat, s'économisait un petit peu, peut-être, en attendant la Ligue des Champions et de pouvoir retourner la situation. Est-ce que vous avez eu l'impression de voir une équipe qui était là pour retourner la situation ?
Oui. Après, ils ont été, comme tout le monde, plus que surpris par ce penalty qui change la donne. Hein, franchement,
psychologiquement,
enfin voilà, ça renverse tout.
Oui, parce qu'au lieu de marquer 2 buts, il faut en marquer 3.
Quand vous êtes devant votre écran, vous voyez ce penalty, vous voyez les ralentis sous tous les angles, vous posez des questions.
Oui, mais c'est pas à 5 minutes de la fin quand même, Franck.
Ils ont le temps. Mais en même temps, ne minorons pas l'exploit de l'OL. C'est-à-dire, on a l'impression que là, la Juve, d'un seul coup, c'est devenu un petit club. C'était pas simple pour eux. Ils savaient qu'ils devaient marquer plusieurs buts, marquer beaucoup. Ils sont tombés sur une équipe qui, à mon avis, dont ils n'avaient pas saisi qu'elle était en pleine possession de ses moyens et qu'elle avait un gros mental. Parce que c'est aussi ça qui a fait la diff. Ils sont bien physiquement, ils sont costauds mentalement. Ils l'ont prouvé face à un adversaire européen qu'on connaît, qui est le Paris Saint-Germain, quelques jours plus tôt. Et la Juve, effectivement, il y avait cette idée d'essoufflement. Je crois pas qu'ils aient cherché à protéger quoi que ce soit les semaines d'avant. Mais je pense qu'il y avait un phénomène d'essoufflement. Ils avaient joué quoi? 13, 14 matchs avant? Tous les 3 jours quasiment.
Oui. Avec les Italiens, il y avait une interrogation. Autant les Allemands, on se dit qu'ils vont arriver comme des bombes. Le Bayern de Munich, même Leipzig, physiquement, ils vont être au top niveau.
Regardez l'Atalanta, hein, pareil. Hein, ils ont été un peu moins bien.
La difficulté des Italiens, c'est d'avoir repris le championnat tard et d'avoir essayé de mettre les 10 journées qui restaient, plus la coupe. Ils ont commencé par la coupe. Donc, ils ont joué tous les 3 jours. Donc, c'est dur. J'ai juste un truc sur le penalty. En fait, moi, je pensais pas qu'il y avait pénalty aussi sur le premier.
Pareil.
Et puis, en fait, j'ai vu en regardant les images là, déjà l'arbitre ne juge pas celui qui tacle. Hein, déjà.
Non,
c'est l'action d'avant.
C'est en amont. D'accord. C'est celui qui vient juste avant et il le montre comme ça. Il dit, et effectivement, en fait, il touche le pied d'Aouar quand il rentre dans la surface, qui fait que Aouar se fait un crochet.
Enfin, faut que tu le revois plusieurs fois pour comprendre.
C'est pour ça que lui, à mon avis, l'a vu depuis son angle. Il a vu tout de suite que ça tapait le pied. Et les gens dans la cabine, ils ont vu plein d'images. Ils ont dit, effectivement, il y a contact au niveau du pied. Mais c'est pas du tout sur le tacle.
David Ortolari, évidemment, on imagine et on a vu, c'est le désespoir de Cristiano Ronaldo quand même, qui est venu dans cette équipe pour leur donner un peu ce supplément d'âme pour aller loin, en tout cas en Ligue des Champions, eux qui ont déjà disputé ces dernières années 2 finales sans gagner. C'était peut-être trop lui demander à Cristiano ?
Ben oui, parce qu'il soulève des montagnes individuellement et collectivement depuis plein de saisons. Il a renversé des choses. Il a parfois marqué deux, peut-être parfois trois buts lorsqu'il en fallait deux ou trois. Et finalement, il a eu des creux aussi. On se souvient dans des matchs même avec la sélection, bien entendu. Mais du coup, on attend toujours le plus deux avec Cristiano, c'est-à-dire le normal, le supérieur et quelque chose qui, en l'occurrence, n'était pas accessible parce que quand même... Le football, il faut jouer à 11 au minimum.
Ben oui. Il y a une grosse déception sûrement aussi pour Lisbonne, parce que c'est quand même son pays, c'est sa ville, c'est le Portugal, quoi. Ah ben là, c'est la star du Portugal.
Ah ben là, j'ai une information d'ailleurs exclusive à vous donner. Il n'a toujours pas dormi. Il ne s'est pas endormi depuis vendredi soir.
Non, mais lui non plus.
Vous vous rendez compte ce que ça représente pour lui de jouer à Lisbonne, même devant personne.
On a vu sur son visage le désespoir de Cristiano.
Le désespoir absolu. Rappelez-vous quand il a ce coup franc à la 14e minute. Il se dit, je suis persuadé que dans sa tête, il se dit, allez, héros de nouveau. Et puis, il rate son coup franc et qui est détourné. Mais non, pour lui, c'était un moment terrible. Parce que tout le monde, maintenant, va revenir sur son âge en expliquant qu'à 36 ans, il aura peut-être 37 l'année prochaine, c'est ça 36
dans la saison qui arrive.
36, donc tout le monde va dire, là, à un moment, il va régresser. Mais ce qui m'a paru incroyable sur ce match-là, c'est que non seulement il ne régresse pas, mais je l'ai trouvé encore plus fit que les dernières années où j'avais pu le voir jouer. Incroyable, il était capable d'éliminer sur une explosivité abdominaux, travail de...
Le gainage.
Le gainage, voilà, un peu comme moi. J'ai une explosivité.
On y reviendra sur cette Juventus et la suite, et notamment avec son gentleman qui est arrivé à la tête de l'équipe, donc Andrea Pirlo, pour son premier poste d'entraîneur. Allez, on continue avec l'élimination du Real Madrid.
À ce niveau de la compétition, Rodri l'allonge et il met en difficulté Raphaël Varane. C'est pas possible.
Il en donne deux buts, c'est pas vrai.
Raphaël Varane est en train de plomber le Real Madrid et d'envoyer Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions. C'est terrible.
Manchester City en quart et le Real, 13 fois vainqueur de cette Coupe d'Europe, sorti par la petite porte, bon enfin, éliminé quand même par une équipe dirigée par Pep Guardiola. Manchester City vainqueur à l'aller comme au retour sur le score de 2-1. Zinedine Zidane semblait aller plus résigné que désespéré.
On peut pas être content de ne pas s'être qualifié. Après les faits de jeu, ça reste des faits de jeu. Je vais pas discuter ce qu'on a fait. Je vais juste penser à ce que l'on a fait justement de biais et ce qu'ont fait tous les joueurs toute l'année pendant 15% du temps. Ce soir, c'est vrai qu'on va finir sur une mauvaise note parce qu'à un moment donné, il faut juste accepter aussi de perdre. Et même si on n'est pas content de cela, je pense qu'il faut féliciter l'adversaire et se dire qu'on peut pas toujours gagner, même si notre envie, ce qu'on a démontré en tous les cas, c'est ce qu'on a essayé sur le terrain de tout donner. C'est d'essayer de toute façon d'aller gagner notre match et c'est ce qu'on n'a pas pu faire ce soir.
Moins désespéré qu'on ne pourrait l'imaginer, Zinedine Zidane, selon vous, David Ortolari?
Oui, moi je suis surpris quand même parce qu'on entend souvent Zidane qui gagne. Et là, c'est vrai que ça fait un peu bizarre, il faut bien le
sortir
dire.
Sortir en huitième.
Mais je crois quand même qu'il y avait en face une équipe qui arrive peut-être à un équilibre avec en plus ses valeurs ajoutées dont on parle régulièrement dans l'émission, De Bruyne et d'autres. C'est particulièrement vrai en offensivement à Manchester City, mais il y avait peut-être là, pour le coup, sur les deux matchs, le premier où c'était à peu près la même chose, quoique, oui, c'était à peu près le même rapport de force et le résultat final, en tout cas, était celui-là. Peut-être que là, on a un Manchester, on va voir là, dans les prochains jours, peut-être qu'on avait un Manchester qui était vraiment le top et qu'il y a quelques insuffisances au Real qui en suffit, pas seulement individuelles, parce que moi je ne suis pas d'accord avec une analyse qui consisterait à faire de Varane le bouc émissaire absolu.
Oui.
Quelques insuffisances
même
qui
si
font que contre Manchester City,
erreurs mènent à
ça
buts,
suffit
mais...
plus.
Mmh.
Voilà.
Ouais. Franck, est-ce que quand même l'objectif premier de cette saison pour le Real, c'était remporter la Liga et que on sait que quand même pareil, eux avaient perdu leur match chez eux il y a 163 jours. On ne sait pas ce qui serait passé dans la foulée d'un match retour avec la rage de l'emporter, mais entre-temps, comme il y a eu le titre de la Liga, est-ce que ça a quand même là beaucoup changé la donne?
Non, je crois pas que ça va atténuer l'élimination, ne va pas atténuer le fait que ils sont passés à côté de quelque chose. Mais le titre, ils sont allés le chercher, ils ont eu un finish.
C'était quoi, 10 victoires, hein.
Ouais, franchement, ce qu'ils ont réalisé, ça reste exceptionnel. Et ça l'était aussi parce que il y avait quelqu'un qui a été extrêmement important dans ce sprint-là. un seul être vous manque, vous connaissez l'expression, et tout est dépeuplé.
Et vous parlez d'un certain capitaine.
Un certain capitaine, il n'était pas là. Peut-être
si,
que
si, il était là, il était en tribune.
Oui, il était en tribune. Mais peut-être que enfin, moi je parle de l'alchimie dans ces cas-là, ou de complémentarité, complicité.
Sa hargne, on connaît son côté.
Alors après, on va pas taper, on va pas frapper une ambulance malade, comme on dit.
Mais enfin, vous parlez d'ambulance malade en parlant du Real?
La prestation de Varane. Ouais.
Franchement, c'est comme une évidence, quoi. Voilà. À côté de ça, on pourrait aussi dire, on pourrait dégainer sur des joueurs qui, il y a eu des manques, des manquements sur le plan offensif. Ils n'ont pas tout réussi. Ils ont créé quand même pas mal d'occasions aussi. Donc c'est vrai, on peut pas focaliser nos critiques uniquement sur un joueur.
Hervé, il y a beaucoup de critiques contre les choix de Zinedine Zidane qui ont été apparemment assez mal compris, on va dire, en Espagne, notamment quand il ne fait pas jouer certains joueurs, Vinicius, le Brésilien, aussi Valverde. Est-ce que c'est aussi de la faute de Zidane?
Alors là, moi, ça me fait doucement sourire, pour tout vous dire. C'est-à-dire qu'il a gagné tout. Ligue des champions, première défaite. Faut pas l'oublier.
C'est-à-dire première élimination. Jusqu'à présent, il était à 100%.
Il a tout gagné. Et puis on m'explique, en fait, c'est de sa faute s'ils n'ont pas basé. Parce que, alors on partirait d'un postulat qui est, Real doit gagner la Ligue des champions. Voilà. On part de ça. Donc s'ils perdent, évidemment, c'est que c'est une erreur. Soit sur les joueurs, soit sur l'entraîneur. D'une petite part sur Varane, et puis l'autre dit, Zidane, t'aurais dû faire jouer les trucs, et puis bidule. Si vous voulez, dans les défaites, les absents ont toujours raison. Moi, je me suis toujours battu en tant que journaliste contre ça. Parce qu'on a toujours tendance à dire, à mon avis, on aurait fait jouer tel.
Mais la presse madrilène est très dure contre Zidane, qui est par ailleurs souvent porté au nu.
Non, mais eux, parce qu'ils sont dans l'excès assez souvent aussi. C'est-à-dire que d'un côté, c'est exceptionnel, et puis d'un autre côté, puisqu'il faut trouver un bouc émissaire, Zidane, il aurait dû faire jouer. Mais Vinicius a pratiquement jamais joué de l'année. Pratiquement, un petit peu, mais pratiquement jamais joué. Pourquoi?
C'est parce qu'en début d'année, il a beaucoup joué.
Ouais,
enfin,
non, mais
avant le confinement.
Avant le confinement. Parce qu'après le confinement, il a pratiquement pas joué.
C'est vrai.
Et au bout d'un moment, on peut se dire, tiens, ça a quand même fonctionné. Donc alors aujourd'hui, il aurait fallu le faire jouer, ça aurait été beaucoup mieux pour l'équipe. Je ne crois pas. C'est-à-dire que hier, il a manqué Ramos, évidemment. Et puis à un moment, vous tombez sur un adversaire de très haut niveau, parce que ce City-là, c'est une équipe qui collectivement est peut-être la meilleure d'Europe aujourd'hui. Donc il faut pouvoir s'opposer à cette équipe-là. Et puis après, vous avez des erreurs individuelles qui n'arrivent jamais. Varane, qui est un joueur de très très haut niveau, on n'est pas titulaire au Real Madrid depuis des années comme ça, et puis en équipe de France, et puis c'est un des piliers de l'équipe de France, et il a fait ces erreurs qu'il ne fait pas d'habitude. Voilà, ça arrive, c'est l'ensemble. Alors je suis sûr que vous êtes Zidane, en revanche, vous posez des questions, vous dites, est-ce que j'aurais pu faire jouer tel joueur? Ça c'est normal, ça c'est son rôle. Venir le tailler pour ça.
Est-ce que c'est grave pour le Real d'avoir été éliminé cette année si particulière, où c'est une sorte de tournoi où on va avoir des matchs uniques pour arriver en finale et où beaucoup rêvent d'ailleurs?
On les a déjà vus renaître dans un passé récent après une, deux saisons catastrophiques sur la scène européenne. On les a déjà vus renaître spectaculairement avec les mêmes.
Quand ils avaient été éliminés par l'Ajax.
Parce que là c'est vrai, on peut dire, Modric aurait pu être décisif, il ne l'a pas été. Casemiro a été insuffisant. Kroos n'a pas été décisif. Les deux latéraux n'ont pas été décisifs non plus. Alors on peut dire, peut-être que l'entraîneur aurait pu faire jouer d'autres joueurs. Mais les mêmes, ceux que je viens de citer, ont déjà été décisifs après avoir été victimes eux-mêmes d'un échec l'année d'avant, etc. Donc je me garderai d'être hâtif sur la prétendue fin de cycle de ceux-là au Real, etc. On va voir ce que ça va faire dans le rebond, dans ce qui va arriver maintenant, en septembre-octobre, pour avoir un éclairage plus franc sur ça.
Mais est-ce que, Franck, ça laisse des traces qu'on soit éliminé à ce stade de cette compétition un peu particulière?
De traces, pas forcément, mais ça sera, je pense, un levier pour la motivation au moment où ils attaqueront la saison suivante. Bon, voilà, on sait très bien que c'est un club. L'ADN du club, c'est de remporter les titres, tous les titres. C'est pas, cette année, on fera l'impasse sur la Coupe du Roi. Non, prendre tous les titres. Donc voilà, ils s'en souviendront le moment venu et ils sauront l'utiliser. Zidane et ceux qui ont vécu ce moment sauront l'utiliser. Après, c'est pas dramatiquement dramatique. Et quelque part, c'est vrai, et c'est bien que mes collègues l'aient souligné.
Merci, Franck.
Ouais, n'oublions pas la performance de City. Voilà, aujourd'hui, exactement. City, c'est pas rien aujourd'hui.
Justement, parlons-en de cette équipe.
Même s'ils risquent d'être éliminés contre Lyon, mais vraiment, c'est une belle équipe.
C'est vrai que ça sera l'affiche entre Lyon et Manchester City. Parlons-en de Manchester City. Alors, Franck, c'est vrai que Pep Guardiola, on a reconnu son équipe, disons, là, en plus chez elle, et avec Kevin De Bruyne qui était au rendez-vous.
Alors lui, pour le coup, il nous enchante. Enfin, à quel moment, en fait, il va pas nous surprendre par sa fluidité. Il y a un côté artiste qu'on aime chez lui, puis une efficacité. Et ce City-là, il y a lui, mais il y a d'autres. Hein. En fait, c'est un tout qui, je trouve, est très impressionnant, qui est bien huilé. Et puis eux aussi, enfin eux, contrairement au Real Madrid, ils sont en quête d'un trophée.
Et oui.
Ça, c'est le fameux appétit.
C'est
le fameux appétit. On revient à ce que tu disais tout à l'heure, David.
Et fameux appétit, parfois, déçu quand même, David,
oui.
Lortolari.
Oui.
Donc, c'est un supplément de motivation.
Oui, alors, il y a.
L'appétit, comme vous disiez.
Chelsea a mis des années avec Roman Abramovich à parvenir. Et encore cette année-là, c'était un concours de circonstances hallucinant. Quasiment dingue. Enfin, presque cocasse même. Et Manchester City avait compris peut-être qu'il fallait être patient. Moi, je trouve qu'ils approchent là d'un vrai équilibre. J'irai pas jusqu'à dire impressionnant, comme les deux, Franck et Hervé, presque. Peut-être il y a des petits signaux d'alarme de temps en temps en défense, et c'est peut-être là que Lyon va devoir essayer de se surpasser pour prendre à défaut la défense de cette équipe. C'est peut-être là qu'il y a un peu plus de faiblesse, entre guillemets, par rapport à l'armada offensive de City.
Hervé, la force de City, où est-ce qu'elle réside?
Elle réside dans la capacité à utiliser la balle aussi bien. Et puis avec des joueurs techniques devant d'une qualité absolument phénoménale. Alors on parlait évidemment de Bruyne, mais tous les autres. Hein. Alors Agüero n'est pas là en plus. Hein. Alors imaginez en plus avec Agüero. Alors on ne sait pas s'il sera de retour ou pas. Mais quand vous avez rien qu'un joueur comme Bernardo Silva sur le banc. Ça veut bien dire la qualité intrinsèque de tous les joueurs qui sont là. Et effectivement, il y a une interrogation sur sa défense, notamment l'axe central, où on se dit est-ce qu'ils sont capables de, face à des gros attaquants,
même en championnat, en première ligue. Ils ont eu beaucoup de défaites.
C'est pour ça que je ne serais pas étonné que les Lyonnais changent. Enfin, on verra.
Une stratégie.
C'est-à-dire que jouent comme ils l'avaient fait à City, c'est-à-dire dans un 4-4-2. Parce que là, si effectivement,
parce qu'ils n'avaient pas été battus par City en plus. Je me souviens bien.
Et ils avaient fait un super match retour contre City où ils font 2-2. Et alors là, au contraire, là, pour le coup, ils avaient dominé City. Mais pas au match aller où ils avaient eu quand même beaucoup de difficultés. Mais dans un système de jeu où ils avaient un peu équilibré tous les joueurs sur le terrain. Parce que là, dans ce 3-5-2, avec une seule personne sur les côtés, ça demande à faire beaucoup d'efforts sur les côtés après pour ceux qui sont intérieurs.
Et les joueurs de côté de City qui sont quand même extrêmement performants.
Tandis que si vous voulez doubler,
Sterling.
Si on double sur les côtés, donc je sais pas, je verrai, mais et un joueur comme Dembélé, par exemple, aura peut-être plus de poids parce qu'il ne soit pas une défense ultra physique non plus, peut-être que lui, avec sa puissance, il peut leur poser quelques problèmes. Donc, il y aura peut-être des coups à jouer contre ce City-là, même si City, évidemment, sera largement favori. Hein.
Alors, on a tous les tableaux, finalement, de ces quarts de finale. Ce match entre Manchester City et l'Olympique Lyonnais, ça sera samedi prochain, à 21h, heure de Paris. On a donc l'Atalanta et le Paris Saint-Germain, eux, qui ouvriront les hostilités, ça sera mercredi soir. On a aussi, donc, Leipzig et l'Atlético, eux, qui avaient déjà été qualifiés avant tout cela. Donc, eux se retrouvent aussi en quart de finale. Et puis, on a le FC Barcelone et le Bayern Munich. On va dire, ils sont au rendez-vous, David, parce que avec le Bayern qui avait été gagné à Chelsea et Barcelone qui avait fait ce match nul à Naples, c'était un peu écrit et ils n'ont pas déçu.
Oh oui, et la presse spécialisée allemande va pas passer une heure sans essayer de savoir s'il y aura un semblant de plan anti-Messi, parce que bien sûr on focalise sur l'homme providentiel vu d'Allemagne, hein, côté vers le Barça, qu'est-ce qu'on va faire face à Messi s'il marche sur l'eau.
Hein,
oui, qui lui aussi est en quête de record. Ça fait beaucoup de joueurs en quête de record.
Ça va faire beaucoup de choses. Et n'oubliez pas que sur RFI, tous les soirs, de mercredi jusqu'à samedi soir, eh bien, tous ces matchs vous seront commentés, retransmis. Et il y aura des radios foot dans la foulée. Et c'est déjà la fin de cette émission. Mais évidemment, la Ligue des Champions va nous prendre beaucoup de temps ces prochains jours. Donc ne vous inquiétez pas, on reviendra sur le Barça. On reviendra sur toutes les équipes qualifiées. Merci beaucoup.
C'est un plaisir.
Merci.
Merci aussi à Marie-Amélie Mott qui m'a aidé aujourd'hui à préparer cette émission. Elle qui vous a tenu compagnie pendant que j'étais pas là.
Magnifiquement.
Et Laurent Salerno, notre maestro, qui était là aussi, bien sûr, aux commandes.
Parfait.
On vous dit notre trio. À demain. Merci.